Et à 8h34, ça y est, c'est fait. Le décret programme 2 a donc été voté cette nuit, peu avant 4h du matin, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un décret programme dans lequel figurent les mesures d'économie du gouvernement MR engagé, mesures qui ont mis une partie du monde enseignant dans la rue. Cela fait des semaines que des profs, des directeurs, des parents, des élèves, des pouvoirs organisateurs se mobilisent contre ces mesures. Hier encore, devant le Parlement, manifestations et échauffourées ont rythmé cette journée. Le président des engagés, Yvan Verhoogstraat, a été bousculé par les manifestants. Il était notre invité ce matin.
Je comprends la colère, mais je condamne les excès qui en découlent parfois et l'instrumentalisation qui a pu en être fait. Vous savez, je pense que l'école, et c'est ce que j'ai toujours appris de mes profs, et voilà, dont j'ai des souvenirs importants, c'est l'école, c'est d'abord la rationalité, c'est le débat d'idées, c'est la capacité de s'exprimer, d'argumenter sur le fond, de pas forcément être d'accord, mais de respecter aussi ce que la majorité décide, respecter aussi la démocratie, respecter aussi les faits. Et je pense qu'aujourd'hui, on est sorti de ça. On est dans un débat d'émotion où l'émotion a pris le pas. Et je pense que ça, c'est dangereux.
Alors maintenant que c'est voté, la mobilisation va-t-elle retomber dans les écoles? Comment va se dérouler la session d'examen dans quelques jours? Et la prochaine rentrée scolaire? On va poser la question à nos invités ce matin. Il y a Alexandre Lodet, bonjour.
Bonjour.
Secrétaire général du CEGEC, hein, vous représentez les pouvoirs organisateurs de l'enseignement catholique. Un représentant syndical avec nous ce matin, bonjour Adrien Rossmann.
Bonjour.
Coordinateur communautaire 7K SEL, c'est l'enseignement libre que vous représentez ce matin, et avec nous également un observateur qui connaît bien le monde de l'enseignement, qui travaille là-dessus depuis des années, c'est Marc Cirlerot, journaliste RTBF. Bonjour Marc Cirlerot.
Bonjour François.
Alors l'école doit-elle continuer à se mobiliser? Vous réagissez, vous posez vos questions sur WhatsApp 0 471 200 500. C'est Sophie Brems qui recueille vos avis, vos questions. Il y en a beaucoup, Sophie, ce matin. On peut peut-être démarrer avec un auditeur ou une auditrice.
Voilà, je vous propose d'écouter la réaction de Marie-Hélène.
Selon moi, la mobilisation doit continuer, doit perdurer. Rien ne les empêche non plus de rentrer en résistance civile et de ne pas appliquer au pied de la lettre toutes les modifications qui ont été votées. Un vote, c'est un vote, mais on peut encore très bien faire changer la donne. On a encore des semaines, des mois pour faire ça.
Alors, question évidemment au syndicat ce matin, Adrien Rossmann, jusqu'où peut aller la mobilisation, puisque vous l'avez dit, elle va se poursuivre malgré le vote. Est-ce que il est possible que certains professeurs, certaines directions d'école n'appliquent pas les mesures et les réformes votées cette nuit au Parlement?
Bien, on va d'abord utiliser les jours qui viennent pour consulter la base et voir un peu comment on peut rediriger le mouvement et travailler à ce que votre éditrice met en avant, c'est-à-dire la résistance, parce que effectivement, nous trouvons que ces mesures sont particulièrement injustes, qu'elles sont brutales et qu'elles touchent non seulement aux conditions de travail des enseignants que nous représentons, mais aussi aux conditions d'apprentissage des jeunes, et ça, c'est inadmissible.
Mais donc, résister, ça veut dire quoi pour les parents qui nous écoutent ce matin? Ça veut dire fermer les écoles, ne pas faire passer les examens en fin d'année, peut-être à faire des actions à la rentrée prochaine? Ça veut dire quoi concrètement?
Alors, je l'ai dit ce matin, je pense qu'il y aura encore des perturbations jusqu'à la fin de cette année-ci. On a annoncé des arrêts de travail et on a encore annoncé des mouvements de grogne et des jours de grève. Alors, en ce qui concerne l'évaluation, il y a des réflexions qui sont menées. Certaines écoles ont annulé les évaluations de fin d'année, ce qui ne veut pas dire évidemment que les élèves ne sont pas évalués, ils l'ont été pendant toute l'année. On a travaillé avec ces élèves, la situation pédagogique de ces élèves est connue, et le but est évidemment de ne pas entraver le parcours scolaire. Mais par contre, si on nous demande d'aller encoder des points pour l'administration, si on nous demande de la surcharge administrative, pour ça ce sera non.
Vous parlez des examens certificatifs ? CEB, CESS, CE1D. Il y a une question là-dessus, Sophie Brems, d'ailleurs.
Il y a des personnes qui nous disent qu'en déclarant que les examens seront peut-être justement perturbés, est-ce que ce n'est pas non plus une fin en soi? Frédéric estime que vous utilisez les étudiants pour l'intérêt des professeurs.
Bon, qu'est-ce qui va se passer alors avec ces examens certificatifs?
Je l'ai dit, l'évaluation de fin d'année, et ça c'est un message que l'on doit quand même délivrer aux familles, n'est pas une fin en soi. L'évaluation, elle a eu lieu pendant pendant l'ensemble de l'année scolaire. Les équipes pédagogiques ne travaillent pas en juin à évaluer l'élève sans le connaître. Il y a tout un travail d'accompagnement qui a été fait. Je l'ai dit aussi, on doit évidemment avoir une attention particulière pour les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage ou qui nécessiteraient de devoir assister à certaines remédiations. Par contre, on doit s'attendre à ce que pour les élèves pour qui il y a déjà une évaluation qui a été faite, eh bien, on puisse considérer que les acquis l'amènent à passer dans l'année supérieure.
Rachid dit que pour tous les élèves qui étaient justement aux alentours des 50% et qui comptaient justement sur les examens de juin pour réussir.
Eh bien, moi, je lui répondrai que la ministre a relevé le seuil de réussite à 60%. Elle va aggraver par ce fait le taux d'échec et le taux de redoublement. On doit savoir aussi en Fédération Wallonie-Bruxelles, et c'est une des pierres d'achoppement pour nous, que le coût du redoublement est de l'ordre de 400 millions d'euros par an. On ne s'attaque pas à ce redoublement, on ne s'attaque pas aux vraies mesures qui coûtent cher dans l'enseignement. Par contre, on met en œuvre des mesures d'économie sur l'emploi, on met des mesures d'économie sur les repas complets, sur le système de gratuité. Ça va impacter les conditions d'apprentissage et ça va impacter évidemment les familles lourdement.
Bon, ça c'est vos revendications sur le fond. Alexandre Laudet du CEGEC, on le sait, le CEGEC a soutenu le mouvement de mobilisation contre ce programme, contre ces mesures d'économie dans l'enseignement. Les questions ce matin sont très concrètes sur la fin d'année. Qu'est-ce que vous dites ce matin aux parents, aux étudiants, aux élèves? Est-ce que c'est fini? On peut se passer des examens? Est-ce qu'on peut se passer des examens certificatifs? Je rappelle que normalement, pour avoir le diplôme de RETO, il faut avoir réussi son CESS.
Donc non seulement on a soutenu le mouvement, mais je tiens à rappeler que lors des concertations qui ont eu lieu, des négociations, nous avons marqué notre désaccord. Donc nous avons été des acteurs, comme les organisations syndicales, qui marquions dès le départ notre position, et pas depuis 15 jours, mais depuis un an et demi. Par rapport à la question que vous posez sur l'importance de ces différents moments dans la vie des élèves et dans leur passeport pour aller une étape plus loin, nous sommes plutôt favorables à ce que c'est le CEB, le CE1D, comme vous l'avez dit, le CSS, peut-être dans une moindre mesure, on veille à les organiser. Mais on voudrait aussi être très attentif à deux situations. C'est toute une série d'élèves qui ont des difficultés, c'est un peu la question que monsieur posait. Je crois qu'il y a, je l'ai entendu à nombreuses reprises, les enseignants sont responsables par rapport à assurer certaines remédiations auprès des élèves. Je sais que c'est soutenu par les organisations syndicales, je crois que c'est une très bonne chose en tant que telle. Et puis, il y a aussi tous ceux qui vont préparer l'examen de médecine ou l'examen d'ingénieur, et je pense que là aussi, on doit pouvoir faire le job. Je veux dire, il y a des nuances dans la contestation, elle est très forte, elle est encore très forte, et elle va le rester. Mais ne l'oublions pas, on est des acteurs de la société, et on peut ne pas faire tout le travail, mais quand même privilégier certains.
Concrètement, l'école n'est pas finie aujourd'hui. Il va encore y avoir des cours la semaine prochaine, il y aura peut-être des écoles qui tiendront des examens, ou bien la mobilisation est telle qu'on peut dire ce matin aux jeunes, ben voilà,
l'école ne va pas fonctionner de façon normale dans les semaines qui viennent. Mmh. Chacun des pouvoirs organisateurs, chacun des directeurs, en concertation avec les enseignants, avec les organisations syndicales ou les mouvements sociaux qui existent pour le moment, chercheront la meilleure solution. Moi, je dirais simplement, je dis, veillons au service aux élèves, même dans un certain minimum, et je pense que ce sera un élément fort pour poursuivre éventuellement la contestation à un moment donné.
Ouais.
Le but, ce n'est pas la contestation pour la contestation. Je crois que le but, c'est de réussir à se remettre autour de la table avec le gouvernement pour passer d'une forme de dialogue de sourds à un dialogue.
Alors, on verra s'il y a encore possibilité de dialogue ou pas entre l'école et le gouvernement. Mais on essaie de comprendre, évidemment, ce matin, parce que c'est une question importante après ce vote, comment l'école va fonctionner dans les prochaines semaines. Marc Cirlero, vous êtes journaliste RTB, vous connaissez bien le monde de l'école, vous avez pris le pouls des enseignants, des directeurs, des étudiants, des élèves pendant plusieurs mois, plusieurs semaines. Est-ce que pour vous, cette mobilisation-là qu'on entend ce matin, elle est inédite? Elle vous rappelle peut-être les grandes grèves aussi des années 90 ?
Oui, il y a une vraie mobilisation, comme on ne l'avait plus connue depuis la fin des années 90. On se souvient que le gouvernement de la communauté française, à l'époque, qui avait déjà des difficultés budgétaires, avait décidé de supprimer 3 000 postes d'enseignants dans le secondaire, on se souvient que ça avait été des périodes très compliquées. On pourrait même reculer un peu avant. En 1990, il y avait déjà des problèmes dans les années 80. Mais c'est vrai qu'entre 95 et 99, il y avait eu d'importantes semaines de grève et la mobilisation avait été soutenue. Et malgré tout, les mesures avaient été décidées et appliquées.
Et donc ici, Marc Sirero, quels sont encore les leviers, vous qui êtes observateur neutre, j'ai envie de dire, quels sont les leviers que le monde de l'école peut encore actionner pour faire éventuellement reculer le gouvernement ?
Je pense que, ou peut-être la majorité, le gouvernement se trompe un peu, c'est de se dire on a voté le texte, c'est fini, maintenant ils se rendent compte qu'on ne peut plus aller plus loin, les enseignants, les syndicats, les pouvoirs organisateurs vont rentrer dans le rang comme si de rien n'était. Il faut bien dire que les mesures qui ont été votées hier, elles seront d'application au mois d'août, à la rentrée prochaine, notamment les 2 heures en plus, avec les conséquences dans les écoles, où quand vous rencontrez des directeurs, ils ne savent pas très bien comment ça va se mettre en place. Alors, le gouvernement a annoncé hier, il y a une conférence de presse de Valérie Glatini avec Elisabeth De Grise, qui ont expliqué toutes les deux qu'il n'y aurait pas de perte d'emploi, qu'il y a un tas de mesures à côté, et il y a un contexte qui fait qu'il n'y aura pas de perte d'emploi. Quand vous entendez des directeurs, il veut dire il y a un gros risque de perte d'emploi et il y a un risque certain de perte de... Alors, on ne sait pas vraiment très bien comment tout ça va se passer. Rappelons en plus qu'il y a l'arrivée du tronc commun en première secondaire à la rentrée prochaine. Donc, beaucoup de sujets difficiles et compliqués. Et en voyant le contexte de ces dernières semaines, on a du mal à imaginer que la mobilisation va s'éteindre ici dans les jours qui viennent et que la rentrée va se passer calmement, paisiblement.
Voilà, on rappelle l'argument du gouvernement par rapport à ces 2 heures en plus et ces risques de perte d'emploi. Plus de 2000 départs naturels chaque année. Il n'y a pas de nouveaux professeurs qui sortent des études parce que les études ont été allongées d'un an. Et donc, selon les calculs du gouvernement, il n'y aura pas de perte d'emploi, en tout cas au niveau macro. C'est ce qu'ils disent. Il y a évidemment des profs qui vont devoir aller chercher des heures ailleurs dans d'autres écoles. Sophie Bremser.
Oui, Marie qui nous a contacté sur WhatsApp, qui dit « La poursuite de cette grève est inaudible. Nos enfants sont sacrifiés, utilisés par les professeurs. Mes enfants scolarisés à Liège sont en congé depuis 3 semaines. Je trouve ça inacceptable et injustifiable par rapport aux autres provinces. » Et puis, vous allez entendre aussi le témoignage de Catherine. Elle estime que finalement, la réalité, elle est là.
Bien sûr, je comprends le malaise et la rage des enseignants qui n'ont pas envie de travailler plus pour le même salaire. Mais il faut se rendre compte des conditions dans lesquelles on est aujourd'hui, des conditions dans lesquelles ce sont les socialistes précédemment qui ont emmené l'enseignement sans faire les économies nécessaires. Et aujourd'hui, il faut avoir le courage de les faire, ces économies. Alors surtout, j'espère que les profs ne vont pas prendre les élèves en otage et que les examens CEB, CESS, etc., que ceux-là, en tout cas, seront assurés.
Alors, il y a plusieurs choses. Alexandre Lodé, vous êtes secrétaire... Adrien Rossmann, vous êtes 7K, donc vous représentez les syndicats ici. Après, on fera évidemment réagir Alexandre Lodé, mais Adrien Rossmann d'abord. Cette auditrice qui nous dit « Mon enfant est en congé depuis 3 semaines
donc,
à Liège ». Donc quoi ? Ça veut dire qu'elle n'a plus école depuis la mi-mai. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Est-ce qu'on assume ça au niveau syndical, sachant qu'évidemment, le mouvement n'est pas de la même ampleur partout dans toutes les régions ?
Alors, effectivement, le mouvement n'a pas la même ampleur partout, il n'a pas le même impact partout. J'aimerais quand même rappeler à vos auditeurs que le MR, par exemple, était au pouvoir sous la précédente législature, et donc il porte aussi une lourde responsabilité dans la situation de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Actuellement, dire aussi que en termes de prise d'otages, ce ne sont pas les enseignants qui aujourd'hui, en cette fin d'année, prennent les élèves en otage. Ce sont des mesures d'austérité qui vont s'appliquer de manière brutale au monde de l'école, qui vont prendre les générations futures en otage et la suite des parcours d'élèves. Je pense aux élèves de l'enseignement obligatoire, mais je pense aussi aux étudiants dont on augmente le minimum vital, et on sait que pour beaucoup d'entre eux, il va y avoir une plus grande précarité face aux études, et c'est inadmissible. Et donc, c'est face, évidemment, à cette prise d'otage-là que nous comptons résister. Et je l'ai dit tout à l'heure, le mouvement n'est pas éteint. On va aujourd'hui rentrer en résistance.
Mais vous êtes bien conscient qu'il faut faire des économies.
Alors, les pistes d'économie, j'en ai évoqué une tout à l'heure. On en a proposé d'autres. Il y a, et nous ne sommes pas les seuls à les avoir proposées. Le comité d'experts que le gouvernement a mandaté avant son conclave budgétaire, le rapport de contre-expertise budgétaire qui a été proposé par le monde syndical propose d'autres pistes, notamment en matière de refinancement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en matière de partage des compétences entre les régions et les fédérations, en matière de poursuite...
C'est au niveau institutionnel, ça.
Au niveau institutionnel, mais
ça va pas se faire du jour au lendemain. Il faut des majorités à deux tiers, etc., etc. Donc, le gouvernement dit que c'est beaucoup trop long comme mesure d'économie.
Il y a la question du refinancement, effectivement, et puis il y a la question de la solidarité entre entités fédérées. Et là, je parle des solidarités entre la région et la fédération. Mais il y a aussi des économies à faire dans le système. Je parlais tout à l'heure du coût du redoublement. Est-ce que l'on s'imagine que le redoublement, cette culture de la relégation, cette culture où on fait descendre, parce que c'est comme ça que c'est vécu par les élèves, on fait descendre les élèves d'une année à l'autre. Eh bien, cette culture du redoublement, elle nous coûte 400 millions d'euros par an. Les mesures qui ont été prises par ce gouvernement vont aggraver la situation. Nous ne cessons de dire que c'est là qu'il faut travailler.
Alexandre Lodet du Cégec, qu'est-ce que vous répondez au gouvernement et aux parents aussi, hein, aux auditeurs qui nous interpellent ce matin et qui disent des économies, tout le monde doit en faire, y compris le secteur de l'enseignement. La ministre dit on fait des économies aujourd'hui pour pouvoir réinvestir dans l'enseignement dès 2027. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Il y a 18 mois, quand on a compris que le gouvernement voulait mettre fin à la philosophie du tronc commun, qui prévoyait un certain nombre d'économies, principalement au niveau de la troisième et essentiellement dans le secteur du technique.
Et le tronc commun, il est mis en œuvre par le gouvernement Alexandre.
Alors, il est mis en œuvre, mais pas les mesures d'économie qui étaient liées au tronc commun. Donc là, on met de côté 50 à 60 millions. Deux, je vous rappelle que c'est un peu le péché originel de tout ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a vraiment senti qu'on cassait ce projet de tronc commun qui ne faisait pas l'unanimité, mais qu'est-ce qui fait l'unanimité aujourd'hui ? Il y avait en tout cas une majorité des acteurs qui défendaient le principe. On a cassé un projet sur 10-15 ans qui donnait enfin une perspective claire où le politique soutenait de manière visible le monde de l'enseignement, porté par les parents, par les organisations syndicales, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment un problème de fond qui est la cause de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et donc c'est clair qu'il y a des choses inaudibles. D'un côté, on nous dit qu'il faut faire des économies, et puis vous savez comme moi que le prochain dossier, c'est éventuellement le CDIE, sous une forme qui pourrait coûter de l'argent.
Marcel Leroux, ça on peut l'aborder aussi, c'est pas fini. Il y a des nouvelles réformes dans l'enseignement qui sont prévues. On a voté un décret programme cette nuit, il y en a peut-être un autre qui arrive, Marc.
Oui, et puis il y a les grands projets qui arrivent derrière, qui viennent d'être évoqués par Alexandre Lodet. Le CDIE, normalement, en 2027, à la rentrée 2027, il devrait être mis en place. Pour rappel, c'est permettre aux jeunes enseignants qui débutent d'avoir plus vite une stabilité dans l'enseignement. Bon, ça va coûter quelque chose. Alors, il y a un autre projet qui était sur la table, rappelez-vous, c'était la fin des nominations. Alors là-dessus, il y a eu le rapport des experts qui a dit que ça allait coûter cher, d'autres qui disent que ça va coûter vraiment cher, et du côté des engagés notamment, on a entendu Elisabeth De Grise, mais aussi le président Yvan Verhoekstra, en disant que si ça coûtait trop cher, cette mesure-là, il faudrait peut-être la mettre de côté. Donc vous voyez encore d'autres gros dossiers qui vont coûter cher, qui arrivent, qui se profilent. Donc là aussi, le gouvernement devra faire des choix. Là, c'était des priorités, le CDIE. On peut pas vraiment imaginer que le gouvernement recule là-dessus. Donc, normalement, ça se mettra en place. Mais pour ce qui est de la fin des nominations, parce que c'est un coût, la fin des nominations aurait un coût notamment en termes de pension. Là, le gouvernement pourrait décider de ne pas mettre fin aux nominations dans l'enseignement.
Effectivement, ça, on verra quel cap politique le gouvernement va adopter. D'autres questions d'auditeurs et d'auditrices, Sophie Brems.
Je vous propose d'écouter la réaction de Katsitsa. C'est une enseignante depuis 36 ans.
Tout début de ma carrière, la première année, nous avons fait des grèves durant des semaines pour nous entendre dire qu'il n'y avait pas d'argent pour l'enseignement dans la communauté Wallonie-Bruxelles. 38 ans plus tard, on entend exactement le même message, avec en plus un mépris d'une ministre qui n'écoute pas. Pour moi, une région, une partie de pays qui n'a pas la dignité de chercher dans son propre fonctionnement comment économiser l'argent, n'a pas un droit d'exister, n'est plus crédible.
Alexandre Laudet, le constat, il est clair et partagé par tout le monde dans le secteur de l'enseignement comme par les politiques. Il faut faire des économies en fédération à l'année Bruxelles. Qu'est-ce que vous, alors, vous proposez pour trouver de l'argent? On le trouve où, de l'argent, si on ne le trouve pas dans les 2 heures en plus par semaine ou dans les autres mesures prévues par le gouvernement?
J'ai en partie répondu à votre question. J'ai dit, si on avait suivi la ligne de conduite, enfin, Adrien Rosman l'a rappelé, 400 millions, on n'aurait pas économisé 400 millions.
Donc si on avait suivi ce que le gouvernement précédent avait décidé, on faisait des économies.
Suivi, appliqué sans doute avec un peu de rigueur, complété par un certain nombre de mesures d'économie. Vous savez, les fédérations de pouvoir organisateurs, on n'en parle pas beaucoup parce que on ne veut pas parler de nous, mais on fait 30% d'économie dans notre système, c'est pas rien pour l'accompagnement des profs, etc. Donc on ne conteste pas le fait qu'il y ait eu un certain nombre de mesures assez équitables entre chacun, en jouant sur quelques pourcents qui auraient permis d'atteindre l'objectif. Voilà, il ne m'appartient pas, et ce n'est pas moi qui détient les chiffres, d'aller dans le détail, mais je crois qu'on aurait pu toucher un peu à tout le monde, plutôt que de cibler de manière excessive certains. Je pense que comme ça, on aurait pu probablement atteindre les 500 millions qui étaient un peu l'objectif en tant que tel. Ce qu'il faut en tout cas éviter, c'est que dans les mois qui viennent, il y ait des dépenses que personne ne comprendrait alors que l'on vient de faire des économies.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Marcir Leroux l'a évoqué, c'est des yeux et la fin des nominations. C'est pour ça que nous avons au niveau du CEGEC fait une contre-proposition qu'on est en train de discuter avec l'ensemble des acteurs dans les jours et les semaines qui viennent, en espérant que chacun puisse trouver un peu de temps par rapport à ça, parce que c'est effectivement le prochain dossier, et que je vais être très clair là-dessus, nous sommes favorables à la stabilité des enseignants, et donc oui, on peut travailler à l'idée d'un CDE, mais qui ne coûtera pas à la Fédération Monimbus.
On entend qu'il y a d'autres dossiers qui vont devoir être négociés, évidemment, avec le gouvernement Adrien Rosman. Est-ce que le dialogue entre les syndicats d'enseignants et la majorité aujourd'hui est encore possible? Est-ce qu'il existe encore cet espace de dialogue?
Mais le dialogue, il est déjà difficile depuis des mois. Monsieur Laudet vient de le rappeler. On a été plusieurs à le dénoncer, à appeler le gouvernement à se mettre autour de la table et à écouter les pistes alternatives que nous défendions les uns et les autres. Aujourd'hui, non, le dialogue, il est rompu. Pourquoi est-il rompu? Rompu parce que les seuls espaces de dialogue où nous pouvions éventuellement faire des propositions, poser nos questions techniques, eh bien, dans ces espaces de dialogue, nous n'obtenons pas de réponse et nous avons constamment un discours qui consiste à appliquer des mesures d'austérité budgétaire qui sont des mesures dogmatiques. Et donc, à partir du moment où la concertation n'est pas possible entre les interlocuteurs sociaux, eh bien, nous devons effectivement passer par des mesures, enfin des actions qui construisent un autre rapport de
force. Vous rentrez en résistance, c'est ce que vous nous avez dit ce matin. Il reste une minute, Sophie Brems.
Juste, il y en a qui s'interrogent aussi. Est-ce que cette situation aujourd'hui ne va pas démotiver les jeunes de se lancer dans la carrière? On a bientôt, donc, avec la fin de l'année, puis il y en a qui hésitent sur des études à entreprendre. Est-ce que c'est une situation qui va les motiver?
Eh bien, madame, je pense qu'effectivement, c'est une excellente remarque et c'est un des points d'inquiétude majeurs, évidemment. Le secteur de la santé l'a connu après le Covid. Nous sommes en train de le vivre. Et si je dois formuler un souhait aujourd'hui, c'est qu'on passe d'un dialogue de sourds à un vrai dialogue dans lequel tous les acteurs mettent de côté, à un moment donné, leurs ambitions pour se dire c'est quoi l'ambition commune que l'on a, entre autres, c'est de redorer le blason de l'enseignement, ouais, parce qu'il y a de nombreux enseignants de grande qualité, pour ne pas dire tous.
Ce sera le mot de la
fin. C'est un beau métier.
Alexandre Laudet, secrétaire général du CEGEC, merci d'avoir été avec nous. Il y avait aussi un représentant syndical avec nous, Adrien Rosman du CEDCA, et Marc Sileroux, journaliste RTBF. Merci à vous trois.